le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir.
Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles.
C'est fait, le code pénal belge est enfin réformé après 10 ans de refonte totale du texte, et il était temps.
Mais d'abord, il y a 10 ans, deux pandas atterrissaient de Chine pour arriver à Périlaïsa. On va voir ce que ces animaux ont changé pour le parc.
Je m'appelle Sarah Saadi Garcia.
Je m'appelle Pierre Fagnard.
À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
Ils s'appellent Ao Ao et Xingwei, et en 2014, c'était peut-être les plus grandes célébrités de notre pays.
Deux pandas géants prêtés par la Chine au parc Périlaïsa, deux pandas géants qui auront au final transformé le visage et le quotidien du jardin zoologique. À quel niveau? Est-ce uniquement un succès commercial ou également pour la biodiversité? Michel de Mulenard, journaliste au Pôle Planète, est passé en studio pour répondre à toutes nos questions. Bonjour Michel.
Bonjour Pierre.
Est-ce que vous vous souvenez ce que vous faisiez, où vous étiez il y a exactement 10 ans?
Ah bah oui, pas aujourd'hui où nous enregistrons ce podcast, mais je me souviens que le 24 février 2014, plus ou moins vers midi, eh bien j'étais sur le tarmac de Zaventem.
Pour accueillir deux pandas.
Pour accueillir deux pandas. J'étais pas seul, évidemment. Il y avait non seulement les pandas, mais il y avait aussi une foule assez considérable. Beaucoup de journalistes, belges, européens, chinois, même des officiels. Le Premier ministre de l'époque, Yodi Rupo, vice-premier ministre, un certain Alexandre De Croo, l'ambassadeur, etc. Donc il y avait du beau linge.
Du beau linge pour ce qui était vraiment un événement. Quand on se replace il y a 10 ans, un convoi absolument extraordinaire entre l'aéroport et le parc de Périlaïsa. Pour Périlaïsa, si on se replace 10 ans avant, c'est une incroyable victoire d'avoir réussi à attirer ces deux animaux, ces deux ursidés.
Oui, alors ça fait un peu sourire évidemment parce que bon, ce ne sont que des pandas après tout. Ce sont des animaux, des boules de poils qui vont dans un parc animalier. Donc je pense que ça fait sourire un certain nombre de gens de voir à quel point il y avait un barnum autour de l'arrivée de ces animaux. Il faut se rappeler que en fait partout où se déplacent les pandas, c'est exactement la même pandamania. Donc c'est la même chose. Lorsqu'ils arrivent, ils sont fêtés. Lorsqu'ils partent, ils sont fêtés. Donc c'est quelque chose qui a un poids effectivement pour Périlaïsa. On peut dire que d'une certaine manière, c'est un graal pour un parc animalier d'avoir des pandas. Il n'y en a pas énormément dans le monde. Hein. C'est vraiment exceptionnel. C'est effectivement le résultat de négociations longues, compliquées entre le parc animalier et les autorités chinoises via un organisme indépendant chargé des programmes de conservation du panda. Donc c'est quand même quelque chose qui est l'aboutissement d'un processus et puis qui par ailleurs, c'est évidemment l'un des éléments fondamentaux de l'épure. Ça change clairement l'image du parc animalier, ça change son attractivité et forcément ça a un impact non seulement sur les entrées mais aussi sur les recettes.
Justement, on ne va pas abreuver nos auditeurs de chiffres, mais si on en reprend quelques-uns, économiquement, en termes de nombre de visiteurs, en termes de fréquentation, etc., c'est une incroyable réussite pour Périlaïsa.
Ben alors, c'est évidemment très compliqué parce que Périlaïsa, c'est un parc animalier qui est en perpétuel mouvement. Donc, c'est évidemment compliqué de savoir si c'est telle ou telle attraction, tel ou tel animal qui suscite l'intérêt du public et qui a permis d'augmenter les entrées. Mais c'est vrai que si on regarde tout simplement la fréquentation du parc en 2013, c'est-à-dire à la veille de l'arrivée des pandas, il y avait 1,2 million de visiteurs qui sont venus en 2013. Et aujourd'hui, où il y a 5 pandas, c'est quasiment le double. Donc c'est 2,3 millions de visiteurs l'an dernier. Donc c'est clair que les parcs animaliers ne font pas ça bénévolement et ne font pas ça pour le plaisir, bien qu'ils y prennent beaucoup de plaisir. Mais c'est clair que ça booste énormément la fréquentation. Même chose pour le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il a été multiplié par 4 entre 2013 et 2023. Là encore, c'est évidemment la fréquentation, c'est évidemment les nouveaux animaux, c'est aussi d'autres attractions, d'autres mondes qui ont été ouverts, plus le merchandising, les produits dérivés qui accompagnent toutes ces attractions.
Si Périlaïsa a voulu des pandas, c'est pour toutes les raisons que vous venez d'expliquer, ou c'est parce que par ailleurs, en plus, bah, ça, c'est un animal qui s'inscrit bien dans la philosophie du parc?
Mais disons que c'est à la fois parce que Périlaïsa a pour vocation de développer ses activités. Donc il le fait via des pandas, il le fait via d'autres mondes qui s'ouvrent et qui vont encore s'ouvrir. Il y a encore des projets dans les cartons. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que lorsqu'un parc animalier accueille des pandas, il participe financièrement au programme de conservation en Chine, qui consiste à susciter des naissances et tenter de réintroduire le panda dans la nature, à l'état sauvage. Donc le parc animalier qui accueille un panda, certains appellent ça une location, mais en tout cas, il contribue à des programmes de conservation du panda. Donc ça fait évidemment partie de la vocation de Paradisea, comme d'autres parcs animaliers, bien entendu. La plupart d'entre eux participent à des programmes de reproduction d'animaux dont certains sont éteints à l'état sauvage. D'autres participent à des programmes de réintroduction de certaines espèces. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, Paradisea, comme d'autres, participent à ce genre de programme et ça fait partie de leur vocation aussi.
Vous avez dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, il y a 5 pandas. Ils sont 2 à être arrivés il y a 10 ans. Il y en a donc 3 qui sont nés. Ça aussi, c'est une petite victoire d'avoir réussi à avoir des bébés pandas.
Oui, alors ça, c'est important parce que le panda n'est pas un animal extrêmement facile à reproduire ou à faire se reproduire. D'abord parce que la femelle a des périodes de chaleur extrêmement courtes, environ 3 jours par an. Donc, le moment pour la fécondation est un moment très court. Par ailleurs, le mâle n'est pas très porté sur l'intérêt de ce genre de choses et sur l'intérêt de la reproduction. Donc, compliqué aussi. Donc, en réalité, la plupart des jeunes pandas qui naissent sont des pandas qui sont nés par insémination artificielle, ce qui est une opération techniquement compliquée et par ailleurs qui débouche quand même sur des échecs, donc avec des petits qui meurent, particulièrement lorsque ce sont des jumeaux, ce qui est souvent le cas lors d'une insémination artificielle. Donc ça nécessite à la fois d'être très pointu dans la pratique de l'insémination artificielle et de ne pas se tromper de moment, de tomber au bon moment, et puis par ailleurs d'avoir développé une compétence assez importante dans le soin des petits.
Ça, c'est aujourd'hui un argument que le parc Paradisea peut faire valoir aux autorités chinoises, à leur dire, regardez, ben maintenant entre guillemets, on sait y faire avec les pandas.
Oui, ça c'est clair il n'y avait pas d'examen à la clé, mais ils ont prouvé qu'ils maîtrisent la technique. Ils ont prouvé d'abord qu'ils savent s'occuper valablement des animaux, mais ils savent effectivement contribuer au programme de reproduction. Donc, à Paradisea, on dit en plaisantant, on en a reçu 2, on en rend 3. Donc, les Chinois sont gagnants dans l'aventure, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est notable et c'est vrai que forcément, tout le monde se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il va se passer après les 10 ans de panda, puisque le contrat, entre guillemets, porte sur 15 ans. Donc, que va-t-il se passer ?
A priori, dans 5 ans, le couple originel devrait retourner en Chine.
Voilà, exactement. Alors, forcément, point d'interrogation, un peu trop tôt pour répondre à cette question-là, mais c'est vrai que le dossier, si on peut l'appeler ainsi, le dossier de Paradisea est relativement solide parce que, en termes de compétences et en termes de qualité de l'accueil, si je puis dire, le parc belge a montré qu'il avait des arguments.
Et on vient de le dire entre les lignes, mais donc les 3 petits qui sont nés en Belgique, eux, ils vont être renvoyés en Chine. Ça fait partie de l'accord, ça fait partie de ce qui avait été conclu entre les autorités et le parc Paradisea. Le parc, aujourd'hui, il voit ça d'un mauvais œil. Ils se disent que peut-être ça va un peu affecter les chiffres de fréquentation si on perd les 3 petits pandas mignons.
Ce qu'on dit officiellement, c'est évidemment d'une part qu'on adorait tous les pandas et que c'est triste que des pandas s'en aillent. On dit aussi que pour le visiteur, voir 2 pandas ou voir 5 pandas, c'est la même chose. Alors ça reste à prouver, hein. Forcément, c'est plus un sentiment qu'autre chose. Il ne faut pas oublier que, comme je le disais, Paradisea, c'est bien plus que les pandas. Et je dirais que peut-être qu'un peu moins qu'auparavant, le panda est un argument de vente. Ça reste un argument d'attachement très fort au parc, hein. On le voit, les personnes qui viennent faire des photos, les sites de fans, etc., sont remplis de photos de pandas, pas seulement de pandas, hein, aussi les grands carnivores, les éléphants, il y a des animaux emblématiques. Le panda en fait partie, donc c'est clair qu'il y a un attachement très fort. On raconte même que des gens ont déménagé pour venir s'installer plus près du parc et donc plus près des pandas pour pouvoir venir les voir régulièrement. Donc il y a un attachement très fort, mais par Paradisea, ce n'est pas que des pandas. Paradisea, c'est plein de projets. Paradisea va ouvrir une gigantesque serre en 2025, si tout va bien, à la mi-2025. Paradisea, c'est aussi des logements. Donc, c'est une machine gigantesque qui avance, qui ne s'arrête pas et qui passera quelque part au-dessus de l'éventuel trou d'air que le départ des pandas pourrait occasionner.
Merci beaucoup, Michel.
Je vous en prie.
Le code pénal belge date du 19e siècle, de 1867 précisément, et malgré pas mal de bricolage au fil du temps, les retouches l'ont rendu difficilement compréhensible, voire incohérent pour certains experts.
Alors au lieu d'être éternellement rafistolé, le code pénal belge a été complètement réformé, un travail qui a démarré il y a 10 ans et dont le résultat a été présenté hier à la Chambre des représentants. Guillaume Derclay est journaliste au Pôle Enquête, il est parti à la rencontre d'un des experts ayant participé à la conception de ce texte en gestation depuis 10 ans, et il est passé en studio pour nous raconter ce qui change ou pas. Bonjour Guillaume.
Bonjour Sarah.
Alors première question essentielle, pourquoi était-ce nécessaire de réformer le code pénal belge? Est-ce qu'il devenait anachronique par rapport à ceux de nos voisins français, suisses ou néerlandais?
Alors il faut savoir que le code pénal belge existe quasi en l'état depuis 1867 et qu'il a été modifié, que de nombreux ajouts ont été faits au fil des années, notamment dans des lois particulières, etc. Et les diverses tentatives de le réformer ont à chaque fois échoué. C'est vrai que nos voisins, par exemple les Suisses, les Néerlandais ou les Français, ont des codes pénaux beaucoup plus récents. Par exemple, les Français vont fêter les 30 ans de leur code pénal. Nous, il a près de 2 siècles.
Et quand a commencé ce travail de réforme et par qui a-t-il été initié?
Alors, la dernière commission de réforme du code pénal a été mise en place en 2015. À cette époque-là, c'est l'ex-ministre de la Justice, Koen Gaens, qui lance les travaux de réforme. Et il a contacté divers experts, dont Damien van der Meersch, qui est avocat général à la Cour de cassation, et Joël Rosy, qui est une experte du côté néerlandophone cette fois.
Et justement, pour votre article, vous venez de le citer, vous avez rencontré un des membres de la commission de réforme du code pénal, qui est également avocat général à la Cour de cassation. Selon lui, pourquoi fallait-il urgemment réformer le code pénal belge?
Alors, il donne lui-même l'exemple des cours qu'il donnait à ses étudiants, où il disait que le code pénal tel qu'il était ici en Belgique était inadmissible. Il leur expliquait que c'était du bricolage, qu'il en résultait une incohérence des plus totales.
Et comment mettons en place une réforme du code pénal? Est-ce que c'est un chantier plus gros que celui du palais de justice de Bruxelles?
Alors le présent chantier du code pénal a pris 10 ans. 10 ans pour aboutir. C'est, selon Damien van der Meersch, une durée normale pour réviser un code. Il sera en tout cas voté avant que les travaux du palais Poulart soient terminés. La réforme, ce n'est pas une révolution, comme le dit lui-même Damien van der Meersch. Le travail a principalement été un travail de codification. Donc il a fallu remettre toute une série de notions dans le code pénal, des notions que les pénalistes utilisent tous les jours, par exemple l'état de nécessité. Imaginez un camion égaré sur la route devant vous, il y a une ligne blanche continue et vous le dépassez. Là, c'est un état de nécessité, vous commettez une infraction, mais il y a une cause d'excuse à cette infraction.
La nouvelle version de ce code pénal est aujourd'hui finalisée. Les auteurs en sont-ils satisfaits ou y a-t-il des frustrations?
Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas une révolution. Les auteurs ont certaines frustrations, des regrets. S'ils l'avaient pu... Si on doit faire fi des politiques, ils le disent, ils seraient allés beaucoup plus loin, notamment sur les peines de prison. Il faut se rappeler qu'en 2018, les deux experts ont présenté leur démission parce qu'ils ne se retrouvaient plus dans la réforme telle qu'elle était à ce moment-là. Donc le cœur de la réforme, en tout cas un des aspects les plus importants, c'est le fait que désormais on va considérer l'emprisonnement comme la dernière mesure. Justement par rapport à l'emprisonnement, à la récidive, Damien van der Meersch regrette que les politiques écoutent plus l'opinion publique, ou en tout cas ce qu'il pense que l'opinion publique dit, que les études universitaires. Il explique notamment qu'il faut vraiment un changement de paradigme pour que les délinquants ne retournent plus en prison, qu'ils se remettent en question, parce que le système carcéral tel qu'il est aujourd'hui n'est pas efficace. Une personne emprisonnée coûte 55 000 euros par an à la société, et en parallèle de ça, une personne qui va gérer des dossiers dans une maison de justice coûte plus ou moins le même prix, et va gérer 60 à 80 dossiers par an à Bruxelles.
Mais ce qui est intéressant intéressant, en fait, c'est que ça a l'air très technique, une réforme de code pénal, mais c'est assez philosophique comme exercice aussi. C'est une vision de la société.
C'est exactement ça.
Merci. Et comment s'adaptent les avocats et les magistrats à ce nouveau code pénal ? Est-ce qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique ?
Alors, le nouveau code pénal a été voté ce jeudi après-midi à la Chambre, mais les praticiens du droit ne devront pas l'appliquer dès demain. Ils vont avoir 2 ans avant de devoir le mettre en œuvre dans les cours et les tribunaux. Et il va y avoir toute une série de colloques, de formations, etc. pour qu'ils puissent se mettre à jour. Le nouveau code pénal est aussi plus lisible. Les experts pensent que ce délai de 2 ans est tout à fait tenable, étant donné qu'il a fallu à peine 2 mois pour que les praticiens du droit se mettent à jour avec la réforme du code pénal sexuel qui est entrée en vigueur l'an passé.
Et même si ce nouveau code pénal n'est pas une révolution, comme vous l'avez dit, quel changement notoire peut-on observer dans ce nouveau texte ?
Alors on peut par exemple observer le fait que désormais les peines sont divisées en différents niveaux, donc du niveau 1 au niveau 8. On voit aussi que le mécanisme de la correctionnalisation qui permet d'admettre des circonstances atténuantes à un crime qui devrait être jugé devant la cour d'assises pour être jugé devant un tribunal correctionnel disparaît. C'est un mécanisme qui n'avait plus lieu d'être, qui était utilisé uniquement pour ne pas encombrer les cours d'assises. On voit aussi vraiment une simplification dans les termes utilisés. Il y a des termes qui étaient utilisés tous les jours ou presque tous les jours. Par exemple, la notion de blanchiment d'argent n'était pas présente dans le code. Et donc, c'est des notions qui font leur entrée dans le code pénal tel qu'il est. Des notions qui sont aussi définies, expliquées et qui permettent une meilleure compréhension, une meilleure lisibilité. Damien van der Meersch s'en amusait. Il disait que s'il donnait cours demain à des étudiants sur le nouveau code pénal, uniquement sur le contenu en tant que tel, il pourrait diviser son cours de droit par 2. C'était assez impressionnant.
Merci Guillaume.
Merci Sarah.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient lundi matin.
Merci de nous avoir écoutés et si vous voulez en faire plus, n'hésitez pas à parler de notre podcast et à partager nos épisodes autour de vous.
À lundi.